Chapitre 14. Marguerite Gérard. Il n'existe pas de sexe faible. Malgré les appels au calme de Madame Hadji, les enfants étaient particulièrement excités ce matin-là parce qu'un agronome était intervenu dans la classe et avait promis pour l'heure du déjeuner une dégustation de fruits et légumes de saison. En courant vers la cantine, Diego s'imaginait déjà que blettes, patates douces, choucal et canneberge, dont il entendait les noms pour la première fois, valaient mille fois un Happy Meal du McDonald's, et dans sa bouche, cela signifiait beaucoup. À table, l'excitation tourna court. Loin de disparaître très vite des assiettes, les petits légumes à la vapeur y étaient comme collés. Mona comptait les bouchées et lorgnait la poubelle. Quant à Diego, s'il ne trouvait pas le menu formidable, son désir d'y croire était si intense, si joyeux, qu'il mâchait bruyamment et rendait un verdict sonore à chaque déglutition. Succulent. Cette manière exagérée de singer un fin gourmet exaspéra un des gamins présents. Le pauvre Diego, sans rien voir venir, se retrouva face à un garçon bien plus costaud qui lui ordonna méchamment de se taire et lui expédia un quartier de mandarine à la base du menton. Diego ne protesta pas. Accablé de grosses larmes retenues sous les paupières, il se contenta de finir son repas en silence avant de partir rêvasser dans la cour. Mona avait tout vu. C'était le terrible redoublant qui avait agressé Diego. Cela lui fendait le cœur, et son béguin pour Guillaume, qui était tellement odieux, la culpabilisait. Après le déjeuner, pour la première fois, elle gravita intentionnellement autour des élèves qui jouaient au football. La sphère en mousse fusait d'un bout à l'autre dans le chaos des cris et des coups de coude. Elle le regardait, lui, si brutal et détestable, et pourtant si solaire. Entre deux passes, il s'arrêta et lui lança « Quoi ? Tu veux encore te ramasser le ballon dans la tête ?» Mona ne prit pas peur. Elle était plutôt stupéfaite. Elle n'en revenait pas qu'il ait, lui, l'insensible Guillaume, souvenir de l'incident survenu 2 mois auparavant. Une obscure bravoure gonfla les veines de Mona. « Guillaume » l'interpella-t-elle en faisant résonner son prénom. « Guillaume » répéta-t-elle en immobilisant la partie. « J'ai vu ce que tu as fait à Diego à la cantine. Ça restera entre nous parce que je déteste les cafeteurs. Mais c'est nul. Et en plus, je crois que tu vaux mieux que ça. » Guillaume, estomaqué, vibrant de sensations qu'il ne maîtrisait pas, s'approcha d'elle qui demeurait droite et fière. Incapable de savoir comment réagir, il eut un geste d'une maladresse cocasse. Il attrapa le pendentif de Mona et tira sèchement dessus, mais sans la force suffisante pour briser le fil de pêche qui lui servait de chaîne. Et la petite lui expédia une gifle en retour. L'assistance applaudit soudain à tout rompre. Guillaume capitula et repartit à son match, rouge et penaud. Cette fois, il se l'était promis, rien n'empêcherait Henri d'appliquer son programme. La semaine précédente, il avait sacrifié l'œuvre d'une femme, Rosalba Carriera, parce que Mona tenait à aller voir des amoureux et que Gainsbourg répondait mieux à cette injonction que la pastelliste vénitienne. Mais le Louvre avait eu l'excellente idée d'acheter récemment une petite huile de la trop méconnue Marguerite Gérard. Le plaisir d'aller contempler cette toute fraîche acquisition était donc dédoublé. Non seulement il initierait sa petite fille à sa prodigieuse complexité, mais de surcroît, il jouirait plus égoïstement du parfum de nouveauté qu'avait la toile à ses yeux. De profil, dans une ample robe à paniers de satin blanc, une jeune femme aux cheveux bouclés et noués siégeait sur un petit tabouret. Elle était tournée vers la gauche de la composition, tandis que le mobilier qui, en la soutenant, boursouflait son habit, se situait dans l'angle inférieur droit du tableau. Un chien, cavalier King Charles, y reposait, calé en boule, sur l'assise de velours bleu à laquelle pendaient des franges. Il se faisait agacer la queue par un chat souple, qui avait surgi par en dessous en se faufilant parmi les traverses du siège. La protagoniste consultait une gravure encadrée de bonne taille. Vue de trois quarts, l'image mise en abîme figurait un couple s'élançant vers une coupe portée par des putti. Sur le verre qui protégeait l'estampe, on distinguait également le reflet des bras fermes de l'examinatrice, manifestement concentrée et autour de laquelle, par un saisissant contraste, gravitait le fouillis d'un atelier. À l'arrière-plan trônaient quelques œuvres au mur, mais plongées dans une obscurité trop épaisse pour être lisible. De part et d'autre de la jeune femme, apparaissaient des meubles. Au plus près d'elle, dans la lumière, c'était un guéridon de style Louis XV, couvert d'un brocart uni rouge au liseré cousu d'or. Le tissu était froissé, et ses plis étaient surmontés d'un discret collier de perles, et surtout d'un duo de poutis sculptés qui s'agrippaient l'un à l'autre par l'épaule et se disputaient un cœur battant à leurs pieds. Eux-mêmes servaient à porter un chapeau à plumet beaucoup trop grand pour leur tête. Un peu plus en profondeur, sur le revêtement en marbre d'un secrétaire, se découpaient dans l'ombre deux figurines polychromes, un pot débordant de quelques pétales oranges dans une coupelle, un grand papier roulé sur lui-même. Ça et là, en étudiant les zones plus discrètes de l'œuvre, on voyait en outre un tabouret à vis, un carton à dessin, d'autres feuilles éparpillées. Cependant, le détail le plus frappant miroitait dans l'angle inférieur gauche, de l'autre côté du conflit entre le chien et le félin, et comme en regard de cette scénette. Sur un tapis à motifs, une lourde sphère métallique réfléchissait la partie de l'atelier localisée dans le dos du spectateur. Certes, la boule était en partie oblitérée par une planche imprimée et les froncements de la carpette qui l'enveloppaient imparfaitement. Mais le reflet convexe renvoyait avec netteté l'image en miniature d'une artiste peintre à son chevalet, éclairée par le jour d'une fenêtre et entourée d'un chien accroupi, d'une autre femme assise et de deux hommes debout, dont l'un observait le travail de l'artiste peintre. En dépit de la prédominance de la figure centrale et du fascinant travail sur les reflets, Mona, durant les 15 à 20 minutes qu'elle passa devant l'œuvre, ne put détacher son attention du félin à la renverse. Mais, connaissant son grand-père, elle était suffisamment maligne pour comprendre ce qui avait motivé la leçon du jour et visa dans le mille pour ouvrir la conversation. « Eh ben, Dadé, on pourrait vraiment croire que seuls les garçons ont le droit d'être artistes au Louvre. Il a fallu attendre 1787 pour que ce soit enfin une fille. »«
Je vois que tu as lu le nom de l'autrice sur le cartel, chère Mona, et tu as raison. »
Marguerite Gérard ouvre une brèche dans un monde écrasé par les hommes. D'autant qu'elle ne se contente pas d'exécuter en tant que femme une extraordinaire œuvre d'art. Son travail valorise par son sujet les femmes en général. Mona ne put s'empêcher de se projeter dans cette peinture en méditant le titre « L'élève intéressante » et en constatant qu'elle-même, auprès de son grand-père, apprenait à juger, analyser les images, exactement comme semblait le faire la protagoniste en longue robe de satin. « Elle est un peu habillée à la façon de l'épouse de Gainsborough la semaine dernière. Qui est-ce ?»« Justement, Mona. » L'identité précise du modèle n'est pas donnée. Certes, grâce à de minutieuses enquêtes historiques, on croit savoir aujourd'hui qu'il s'agit d'une certaine Mademoiselle Chéreau. Mais ce n'est pas cela qui compte. Marguerite Gérard ne signe pas un portrait à proprement parler. Comme Franz Hals avec sa bohémienne, elle réalise une scène de genre.
Ah oui, je me rappelle, ces tableaux qui parlent des moments de la vie de tous les jours.
Et au cœur de cette scène, elle promeut les qualités d'une jeune fille qui pourrait être n'importe quelle jeune fille, en la montrant dotée de talents d'expertise, capable d'estimer les qualités d'une œuvre d'art.
Et moi-même, grâce à toi, j'en serais peut-être aussi capable un jour.
Tu l'es déjà. Tu es un peu mon élève intéressante.
Mais je te défends de t'emparer de ce tableau comme elle manipule son estampe. Tu n'as pas l'intention de faire hurler les alarmes du Louvre toutes les semaines.
Bref. Puisque tu es une experte, dis-moi donc ce que tu en penses.
Je pense un peu à Vermeer, mais tu m'as dit qu'il avait été oublié très longtemps.
Certes, il tomba dans l'oubli.
Toutefois, au-delà du cas spécifique de Vermeer, l'art des Pays-Bas du siècle précédent était en effet très prisé dans les années 1780. Tu dis donc juste. En France, on avait notamment redécouvert les écoles du Nord. Nul doute que Marguerite Gérard s'en imprègne. Elle reprend à son compte les défis du style hollandais, en particulier l'accumulation des détails, des étoffes et la subtilité des phénomènes optiques. Et plutôt qu'à Vermeer, qui était alors ignoré et dont les atmosphères soufflaient quelque chose de grave et métaphysique, elle était comparée à Gérard Terborch. Oh, le grand public ne le connaît guère aujourd'hui. Il a pourtant été, depuis sa carrière à Amsterdam dans les années 1630 jusqu'à la fin du XIXe siècle, un immense modèle artistique. Eh bien, la peinture de Marguerite Girard rivalisait avec la sienne. Mais c'est donc la toute première femme à devenir une artiste dans l'histoire, Dadé ?
Heureusement, non. Reste que les restrictions culturelles s'avéraient si contraignantes qu'on en compta fort peu jusqu'au XIXe siècle, et même jusqu'au début du XXe siècle. Laisse-moi te donner quelques symboles de cette iniquité. Durant toute la Renaissance et l'âge classique, l'Église refusait le mélange des sexes dans un même atelier. Et en présence d'apprentis ou de modèles masculins, les femmes ne pouvaient donc guère s'y former, sauf exception familiale. Comme par ailleurs l'usage voulait qu'elles demeurent délicates, destinées à des travaux propres et sans danger, elles ne pouvaient pas devenir sculptrices. Et quand elles accédaient à une certaine notoriété, les sujets les plus valorisés, comme les scènes militaires, leur étaient refusés, ce qui les cantonnait à l'anecdote et presque toujours à une pratique amateur. Tout cela découlait d'un préjugé prétendant que les femmes étaient le sexe faible, faible en ce sens qu'il cédait facilement à ses passions, faible en ce sens qu'il fallait l'écarter et le protéger des grandes affaires du monde, telles que la guerre. Aussi, les artistes parvenus à percer dans l'histoire, comme Artemisia Gentileschi en Italie au XVIIe siècle ou Mary Moser à Londres dans les années 1770, sont-elles à la fois des cas rares, des pionnières et des héroïnes ? Alors tu dirais que Marguerite Girard est une héroïne ? Eh bien, à sa manière, oui, car elle ne recule devant rien. Dit-on à l'époque que les femmes sont le sexe faible ? Soit. Elle n'a encore que 26 ans, mais elle additionnera les tours de force. Regarde l'affaire dans cette toile. D'abord, elle déploie autour du sujet principal, l'examen avisé d'une gravure, quantité de sujets annexes, l'interaction de deux animaux qui folâtrent, les allusions à la tendresse et à l'amour, le dynamisme d'objets prétendument inertes, une séance de peinture au chevalet. Et malgré tous ces détails, l'œuvre se maintient en une parfaite unité, grâce à la répartition très équilibrée des motifs et à la distribution des lumières. Ensuite, elle démultiplie les gammes de matières à représenter, du pelage d'une broderie scintillante à la carnation d'une peau humaine, en passant par le grain minéral d'une sculpture. Enfin, elle déforme les images mises en abîme dans l'œuvre. L'estampe est traitée en raccourci sous l'effet de la perspective et intègre le reflet de la manche plissée. Les motifs du tapis et de la feuille se froissent sous le globe métallique, dont la convexité rapetisse et bombe les personnages hors champ. Ce n'est pas une main habile qui a fait cela, c'est l'habileté faite main. C'est la démonstration qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les sexes. Il y a quand même quelque chose qui me dérange dans tout ça, Dadé. Elle marqua un très long temps en se grattant la tête. Le tableau s'appelle « L'élève intéressante ». Mais cette fille dans cette grande robe, c'est l'élève ou la maîtresse ? Mona touchait du doigt, par l'innocence toute simple de son interrogation, une énigme centrale du tableau. Henri savoura la question et recourut à son débit le plus lent pour déplier sa réponse. Jusqu'à présent, nous avons fait comme si, en effet, c'était la femme au centre observant l'estampe qui était désignée par le titre. Sommes-nous bien d'accord ?
Oui.
Mais nous n'avons pas bien regardé.
C'est-à-dire, Dadé, j'ai bien regardé, moi ?
Moi aussi, Mona. Et j'ai vu qu'il y avait bel et bien un professeur dans cette œuvre.
Ah bon ? Tu le vois où ?
Il s'appelle Jean-Honoré Fragonard, et on le surnommait le divin Fragot. C'est un héritier de Watteau, et l'un des plus grands artistes du XVIIIe siècle, le représentant de la tendance libertine en peinture. Eh bien, Fragonard est là.
Mais où donc ?
Note d'abord que l'estampe, au centre de la composition, est en fait une reproduction gravée d'un des plus beaux tableaux allégoriques de Fragot, un tableau de 1785 nommé « La fontaine de l'amour ». Deux amants y courent s'abreuver de passion à une coupe tenue par des putti. les putti de l'estampe sont indiscernables, mais ils sont pour ainsi dire dupliqués et mis en volume par le duo d'angelots hissés sur le guéridon et gentiment ridiculisés par le trop grand chapeau qui les coiffe. Et puis Mona, nous n'avons toujours pas regardé de près l'infime reflet dans la boule métallique à gauche de l'œuvre. Il prit un long temps. Observe bien. On y voit le reste de l'atelier. Et en plus d'un brave chien assis, se découpent les silhouettes de quatre personnages. En train d'exécuter sa toile, c'est évidemment l'autrice elle-même, c'est-à-dire Marguerite Gérard. À côté d'elle s'est assise sa sœur, la miniaturiste Marianne Gérard. Tandis que son frère Henri, très bon graveur, se tient debout à la droite du reflet. Enfin, dans le dos de l'artiste à son chevalet, il y a l'époux de Marianne, qui est aussi le beau-frère et le maître de Marguerite. C'est précisément Fragonard. Il est en train de veiller sur son élève. Comprends-tu ce que cela signifie? Que l'élève intéressante, c'est aussi celle qui peint le tableau et qu'on voit en tout petit dans le reflet. Exactement, Mona. Nous avons résolu notre énigme. L'élève, c'est Marguerite Gérard, sous l'œil de son maître Fragonard, qui la juge intéressante. Et d'ailleurs, le professeur se montre si complice avec son extraordinaire disciple qu'il a pris les pinceaux pour peindre un motif de ce tableau. Cela explique que son nom soit mentionné sur le cartel aux côtés de celui de l'autrice. Un détail de la toile est donc de la main de Frago. Sauras-tu deviner lequel?
Donne-moi un indice, s'il te plaît.
C'est un détail que tu aurais souhaité pour Noël.
Miaou, un chat. Frago a peint le matou.